Éric Massier, bonjour, vous êtes lyonnais. Vous présentez le spectacle Mourir Vertical dans le cadre du festival Sens Interdit au Théâtre de la Renaissance à Oullins. Ce projet est né avec des femmes colombiennes. Vous êtes allée en Colombie. Alors pourquoi ce projet avec des femmes colombiennes ?
À la base, j'ai créé en 2013 un solo sur l'émancipation féminine française. Uniquement, c'était déjà un projet très ambitieux qui réunissait à peu près une douzaine d'auteurs qui allaient de textes poétiques comme André Chédid, Lucie la femme verticale, de textes politiques comme Simone Veil qui plaide en faveur de l'IVG devant l'Assemblée nationale en 1974, comme des extraits de romans ou de journaux intimes. Alors, il y a Annie Ernaux, il y a Virginia Woolf, voilà. Donc c'était une manière très intense d'entrer, d'offrir un regard sur, on va dire, les 40 dernières années du féminisme, majoritairement avec des Françaises, mais aussi Virginia Woolf par exemple, ou Anaïs Nin, qui ne sont pas françaises mais qui ont beaucoup influencé aussi cette réflexion-là. Ça a été un grand moment. Je l'ai joué avec un personnage que j'avais créé lors d'une performance qui était entre les genres, donc le personnage de Juliette, qui reste dans la création de Mourir Vertical. Et il y a à peu près 2 ans, la commissaire de l'année croisée France-Colombie, Anne Louillot, via d'autres intermédiaires, nous a fait savoir que ça pouvait être un projet qui l'intéresserait, mais qu'il fallait aller se rendre en Colombie pour voir comment le projet pouvait prendre sur le territoire, quel mode de diffusion on pouvait trouver, quel impact il pourrait avoir. Sachant qu'elle disait que la thématique, elle n'avait aucun doute, résonnerait très fort et au cœur des problématiques actuelles. Qu'en fait, je suis allé en novembre 2015, 10 jours en Colombie, pour faire de la prospection sur une invitation de l'ambassade. Donc là, j'ai rencontré énormément de gens, dont Manuel Arruela, qui est devenu mon collaborateur à la mise en scène, dont des ONG, des auteurs, des féministes, des journalistes, des femmes déplacées, des anciennes FARC, etc., etc. Et tout doucement, je me suis dit, bon, c'est vrai que si ce projet, on le monte, il faut qu'on ait un plateau avec les deux langues, il faut qu'on ait des interprètes français et colombiennes, et puis surtout, il faut que les femmes qui soient au plateau soient représentatives de la société colombienne à l'heure de la pacification. Donc ça veut dire que si on le prend dans le cadre de l'heure de la guerre civile, il faut que ce soit des femmes qui soient aux antipodes. Et comment aujourd'hui ces femmes sont vraiment le ciment de la pacification, la souhaitent et œuvrent malgré les violences qu'elles ont subies ou fait subir dans des cadres plus ou moins complexes d'avoir été enrôlées comme enfants soldats, etc., puis d'avoir continué plus tard. Elles renient pas le passé, mais elles veulent changer l'avenir.
Comment vous avez choisi ces femmes ? J'imagine que vous en avez rencontré beaucoup. Comment vous les avez sélectionnées ?
Alors ça, c'est le deuxième voyage. C'est novembre 2016. J'y retourne et à ce moment-là, je sais que le projet, je vais le faire avec Alejandra Borrero. Parce qu'entre-temps, je l'avais rencontrée très rapidement la première fois. Manuel Arruela, qui était en contact avec elle, m'avait fait savoir que ça l'intéressait beaucoup. Sachant que elle a créé un théâtre qui s'appelle la Casa E. 50% des productions de la Casa E s'intéressent à la violence faite aux femmes, s'intéressent à l'émancipation féminine. Donc, pour elle, il n'y avait pas à discuter. Elle voulait s'inscrire dans le projet. Moi, j'en étais ravi parce que dans mes premières interviews de mon premier séjour, je demandais toujours comme ça aux gens, si vous me citiez 3 icônes, 3 figures pour vous du féminisme colombien, il y avait systématiquement Alejandra Borrero qui était dedans. Donc c'était un peu le rêve d'un seul coup de pouvoir travailler avec la personne qui était citée par toutes les personnes que je rencontrais. Donc ça, c'était formidable. Et donc je dis à Alejandra, voilà, j'ai des contacts, j'ai rencontré des FARC du groupe M19, j'ai rencontré un autre groupe de femmes victimes, des universitaires qui ont été abusées pendant leur détention. Mais j'arrivais pas encore à trouver le nerf qui les reliait. Et elle me dit, mais écoute Eric, c'est incroyable, depuis quelques mois, je mène un projet qui s'appelle Victus, donc qui a abouti depuis en mai dernier, quelques semaines avant Mourir Vertical, qui rassemble une 20aine de femmes et hommes, anciens guérilleros, anciens combattants d'extrême droite, militaires et victimes civiles. Donc pourquoi ne pas, à l'intérieur de ce groupe, choisir des femmes qui pourraient avoir les profils que tu souhaites. Donc en fait, finalement, c'est là j'ai rencontré une à une ces femmes, je les ai interviewées par rapport à ce que j'avais en tête pour les sonder, voir si elles avaient la capacité à aller à l'endroit où je voulais les convoquer, la capacité personnelle, émotionnelle, la capacité scénique aussi, hein, parce qu'après il faut tourner, il faut donner ses textes, et aussi la capacité d'écriture, puisque l'idée c'était leur faire réécrire plusieurs fois leur histoire, qu'on quitte le côté un peu comme une interview journalistique où à un moment donné il n'y a pas de filtre, et puis d'un seul coup on puisse métaphoriser, poétiser leur témoignage.
Effectivement, on a l'histoire de ces femmes qui se racontent, et en même temps, au départ de la pièce, vous reconstruisez quelque part l'histoire de l'humanité, puisqu'on commence à parler d'Adam et Ève, puis après on passe à Simone Veil, etc., on passe à beaucoup de choses. Et en fait, c'est comme si vous nous présentiez la femme comme, dès le départ, une femme qui serait le mal incarné, en fait, et qui a toujours été dans les sociétés d'hommes mal aimées.
C'est vrai qu'on a été en ça aidé par Florence Thomas. Donc là, vraiment, c'est l'égérie, ils appellent ça la griffe du féminisme colombien, qui paradoxalement est française, puisqu'elle est partie par amour habiter en Colombie quand elle avait 19 ans, qui nous a pas mal accompagnés. Et elle avait écrit beaucoup d'articles qu'on a revisités et restructurés en court texte sur justement comment détricoter des choses qui, à travers les siècles, à travers l'histoire de l'humanité, font que la femme est toujours considérée comme portant le mal, la pécheresse, etc. Donc elle s'attaque par exemple à Adam et Ève en disant mais en fait si on réfléchit bien, bon, est-ce que le paradis c'est vraiment excitant? Bon, elle est un peu provocante, elle dit c'est pas glandé, mais dans le c'est un peu ça. En gros, on s'ennuie un petit peu avec Adam au paradis, et puis là il y a un truc formidable qui se propose, c'est de croquer dans la pomme de l'arbre de la connaissance. Et c'est ça qui fait l'humanité. La richesse de l'humanité, c'est d'avoir envie de connaître, d'avancer, de creuser les sujets. Et donc, effectivement, elle dit merci Eva de nous avoir permis, même si c'est douloureux, d'avoir accès à la connaissance. Et donc, finalement, d'un seul coup, c'est très surprenant d'entendre merci Eva, alors qu'on est plutôt à dire bouh, Eva la mauvaise, celle qui a croqué le fruit et qui fait qu'aujourd'hui, on est sur Terre alors qu'on pourrait tous être au paradis. Voilà. Donc, c'est aussi détricoter ces choses-là à travers ces textes, toujours avec de l'humour et avec des textes de femmes intelligentes comme Virginie Despentes ou effectivement Florence Thomas, qui prennent des stéréotypes, finement des choses qui ne sont pas assez pensées et qui les détricotent pour dire « bon, ben voilà, une fois que c'est détricoté, vous en pensez quoi ?»« Ouais, ok, la femme est l'égale de l'homme, c'est plus que clair.
» Donc il y a 4 femmes et vous êtes aussi dans ce spectacle. Et donc moi, j'ai eu le sentiment que ce n'était pas seulement un spectacle sur l'émancipation de la femme, puisque parfois ça peut être aussi la femme qui est dangereuse, puisque vous racontez une anecdote qui vous est arrivée, et justement c'est la femme qui était la prédatrice entre guillemets. Donc moi j'ai eu l'impression que c'était un spectacle sur l'émancipation de l'humanité finalement, et aussi de comment devenir qui on est et ne plus être dans des stéréotypes ou de répondre à la demande de la société, mais devenir ce qu'on est nous, au plus profond de nous-mêmes.
Bien sûr, en fait, faire un spectacle sur les femmes, c'est ne pas dire non plus « la femme est tellement extraordinaire par rapport à l'homme ». En fait, si la femme est l'égale de l'homme, elle l'est égale en intelligence, mais aussi en capacité de nuisance. Voilà, mon témoignage alimente, avec l'histoire que je raconte dans le spectacle, un côté plus sombre des femmes. Mais j'ai aussi beaucoup d'amis qui me disent « à poste égal, en fait, on n'a pas le droit à l'erreur ». Finalement, un homme qui fait un faux pas, qui se trompe, c'est professionnellement beaucoup plus pardonné qu'une femme. Et effectivement, ma présence en tant qu'homme entre les genres, en tout cas dans mon personnage, c'est ce que j'affiche sur scène, permet d'universaliser le propos aussi, de ne pas finalement d'avoir que des femmes qui parlent des femmes, mais d'un seul coup, c'est un homme qui prend cette parole, qui jette aussi un autre regard sur les femmes.
Votre personnage, il s'appelle Juliette. Et comment il est né ce personnage un peu? Quelle est sa genèse?
C'est très amusant parce que vous me posez cette question alors que ce matin, on vient de recevoir l'édition d'un livre qui est la pièce qui s'appelle « Chère Juliette ». C'est une pièce qui a été écrite il y a quelques années et qui est faite pour être jouée en chambre d'hôtel. C'est un cycle qu'on avait fait, on avait des auteurs qui écrivaient pendant 3 ans de suite, on a une 15aine de textes du coup, des solos pour acteurs. Et dans le groupe où on était, arrive ce texte « Chère Juliette », un homme qui attend Juliette dans une chambre d'hôtel, mais après un quart d'heure passé avec cet homme, on s'aperçoit que c'est lui-même qui se transforme et il est la Juliette qui l'attendait. C'est là que j'ai créé ce personnage. À l'issue d'avoir créé ce spectacle qui avait plutôt très bien marché, beaucoup ému les gens par leur proximité, voire la promiscuité qu'ils entretenaient avec le personnage de Juliette, eh bien, on me propose de faire une genre de lecture-spectacle autour d'émancipation féminine dans un cycle qui durait 6 mois dans les châteaux de la Drôme, où il n'y avait que des femmes. Alors, pourquoi ne pas être un homme, mais interroger à travers un personnage entre les genres, comme l'était Juliette, cette question-là? Voilà. Et c'est comme ça que le personnage est né et que d'un seul coup, le personnage s'est échappé de la fiction initiale qui avait lieu dans cette chambre d'hôtel pour une pièce, pour finalement créer d'autres pièces. Donc là, Juliette a une belle vie puisqu'elle est passée de Dear Juliet, puisque l'auteur est britannique, à Femme verticale et aujourd'hui à Mourir verticale.
Dans le spectacle, donc le décor, on voit un plateau qui est entouré de livres, des lumières qui descendent et qui oscillent, et puis aussi dans le fond, des panneaux vidéo. Alors moi je me suis dit que si vous mettiez autant de livres, c'est que pour vous, c'est les livres qui apportent l'émancipation, peut-être qui font évoluer les mentalités, évoluer les femmes.
Déjà, on est le fruit de la culture qui a été construite avant nous. Donc effectivement, c'est assez beau de voir que certains textes ont une forme d'universalité, certaines revendications, et d'autres non. C'est-à-dire que finalement, la situation de la Colombie avec les différentes mouvances dont les FARC, c'est très spécifique à la Colombie. À l'inverse, la guerre, l'état de guerre qui fait qu'il y a des grandes humiliations, il y a des terreurs terribles comme les camps de concentration, puisqu'effectivement on a un texte de Simone Veil qui témoigne de notre dernière guerre, c'était la Seconde Guerre mondiale, de sa déportation dans les camps de concentration et du travail de résilience qui a agi en elle et qui a permis de faire ce qu'elle est devenue. Donc, certains contextes se regardent en miroir, d'autres sont complètement différents. Par exemple, si je prends, j'ai fait une version de Mourir Vertical en Guinée équatoriale, donc avec quatre femmes équato-guinéennes qui appartiennent à des familles polygames. Donc forcément, la question de la polygamie était importante dans le montage qu'on a fait là-bas. Mais à exporter, oui et non. Donc c'est aussi comment on s'adapte finalement au contexte. Donc on est le fruit de ces cultures et la culture est dans les livres. La culture, c'est ce que souhaitent aussi toutes ces femmes qui, dans leurs premières années, pour beaucoup d'entre elles, ont vécu dans la jungle. Donc une a appris à lire à travers Che Guevara, Lénine, etc. Et l'autre, pas du tout. Et ce sont aussi des filles brillantes qui commencent des études à 25 ou 30 ans, puisque la vie ne leur a pas permis de le faire avant. Donc effectivement, sur scène, ces livres, c'est la connaissance. Voilà. C'est ce qui nous nourrit, c'est là-dessus, c'est notre socle, et à nous d'écrire la suite.
Et justement, vous revenez sur le discours de Simone Veil sur l'autorisation de l'avortement en France. Alors, on pourrait se dire que chez nous, c'est passé, ce combat est terminé. Mais en fait, en Colombie, par exemple, l'avortement est autorisé seulement en cas extrême. Et en Espagne, récemment, il y a aussi eu des retours en arrière. Donc finalement, est-ce que tout est toujours à recommencer? Il faut toujours faire attention.
Oui, et en même temps, je donnerai un petit signal, c'est que la société colombienne est loin d'être rétrograde, puisque le mariage pour tous a été finalement validé par la Cour constitutionnelle en 2015, à peu près en même temps que nous, du coup, à un an et demi près, et que depuis le mois de mai, les homosexuels peuvent adopter un enfant. Donc, ils sont carrément en avance sur nous. Mais voilà, sur d'autres sujets, c'est le paradoxe, puisque c'est aussi une société très religieuse, plus vers l'évangélisme que le catholicisme plus classique, et qui finalement va autoriser à un endroit une chose qu'en France on n'arrivera pas à faire passer d'ici 15 jours, et sur un autre va avoir une chose un peu rétrograde, effectivement, comme sur l'avortement. Donc c'est important, en fait, de garder les combats, rien n'est jamais acquis, c'est vrai, et en même temps, le fait que la religion ait beaucoup de poids en Colombie freine la possibilité pour les femmes d'avoir accès à l'avortement libre et gratuit. D'un autre côté, la venue du pape a été assez formidable. Et d'ailleurs, on avance toujours sur le spectacle. Donc il y a une phrase du pape que je voudrais mettre dans le spectacle. Je ne vais peut-être pas l'avoir exactement en tête, mais il dit « C'est bien de désarmer ce qui se passe en ce moment, de rendre les armes, mais il faut déjà désarmer les cœurs. Désarmer la haine dans les cœurs, c'est autre chose. » Et c'est une phrase qui a beaucoup résonné pour eux. Toutes nos sociétés sont en cours, mais sur certains éléments, les Colombiens peuvent être aussi un modèle pour nous, pour avancer.
Et pour finir, donc, peut-être, l'actualité proche, avec notamment ce qui s'est passé avec M. Weinstein. En France et aux États-Unis, les femmes qui commence un peu à dénoncer de façon anonyme ou moins les violences, les attouchements, ce genre de choses. C'est un bon début pour vous ?
Alors c'est le début de quelque chose, c'est clair, et en soi c'est bien. Après, la méthodologie est compliquée, c'est-à-dire que de balancer des noms, ça peut créer du mal. Et d'un autre côté, balancer des noms, c'est aussi d'un seul coup une personne qui se sent isolée donne un nom et d'un seul coup fédère 15 personnes parce qu'effectivement, il y a la personne qui fait ça en série. Il y a la personne qui dérape une fois, il y a la personne qui fait ça en série. Moi, je trouve ça bien, de toute façon. Après, pour moi-même avoir été victime, voilà, comme je le raconte dans le spectacle, j'étais très isolé. Et finalement, quand j'ai su que c'était le cas pour d'autres personnes que moi, c'était déjà trop tard. Donc c'est vrai que la personne, de toute façon, à qui ça arrive, elle est toujours isolée. Et c'est aussi le prédateur ou la prédatrice le sait, ou le sait en tout cas instinctivement, et que cette personne ne va pas forcément se mettre en lien. On n'attaque pas une personne quand on sait que la personne, le lendemain, elle va publier quelque chose ou vous attaquer en justice. Donc forcément, c'est très complexe et dans l'absolu, donc c'est plutôt une bonne chose. Après, il faut qu'elle soit assez encadrée, surtout qu'elle permette à chacun de réfléchir. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand c'est sorti, je me suis dit, mais mince, est-ce que moi, j'ai assisté à des moments où j'aurais pu dire non, mais là, c'est très déplacé ou arrête, etc. Personnellement, non.
Merci Eric Massé, donc on vous souhaite le meilleur pour cette pièce.
Merci à vous.